Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis heureux de vous accueillir comme archevêque d'Avignon et d'accueillir Dominique. Et ce soir, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous parler de communication. Ensuite, on prendra un chant ou deux de louanges. Et après, à mon tour, j'essaierai de prendre quelques minutes pour vous parler de communication à partir de l'Évangile, quelques textes d'Évangile, pour voir comment la communication se fait dans deux, trois textes d'Évangile. Et puis après, on continuera la soirée en louant le Seigneur. Alors, Dominique.
Merci, Jean-Pierre. Très heureux de me retrouver ici, encore une fois, en Avignon, pour ce nouveau forum, communion, évangélisation. Nous avons pris un thème qui est un thème d'actualité, qui va être exploré dans différents angles au cours de ces deux journées, qui est le thème de l'évangélisation par les médias. C'est l'actualité, on a eu, vous savez, tous un déchaînement médiatique à l'occasion des jours passés à propos de la personnalité des prises de position de Benoît XVI. Et tout ça nous oblige à pouvoir réfléchir ensemble d'une manière à la fois extrêmement claire et aussi en nous inspirant de ce qui est fait actuellement au niveau d'un certain nombre de médias chrétiens, de voir quel type de présence l'Église doit avoir dans le cadre de l'organisation des médias, en présence à la fois d'écoute de ce qui est nom de la vie du monde, hein, l'Évangile est authentique par rapport à notre société, il doit s'inscrire dans la vie de notre monde, et en même temps voir la place spécifique dans ce monde des médias, qui est un monde parfois sauvage, la place spécifique d'une parole chrétienne. Donc je vais au début, pour introduire l'ensemble de ce qui va être dit, nous aurons un week-end qui sera riche d'expériences, de propositions, d'expérimentations dans ces domaines de médias. Je voudrais simplement revenir un peu à quelques fondamentaux lorsqu'on parle d'Église et médias. Première chose, c'est que la communication est profondément intrinsèque à la proposition chrétienne et au christianisme. Et l'Église, par essence, est missionnaire et donc par essence fait acte de communication. L'Église ne peut pas s'empêcher de communiquer. Et cette communication, on va l'entendre tout à l'heure à travers des méditations, la communication propre de Jésus, mais cette communication, elle s'inscrit dans une histoire. On pourrait dire que le péché, dans son essence, c'est un acte de non, un refus de communication, parce qu'il implique une rupture. Et nous voyons dans les premières pages de la Genèse, chapitre 11 de la Genèse, cette tentative de l'humanité de construire une grande ville sans Dieu. Et cette tentation, qui est une des formes de la déviation du péché originel, eh bien, cette tentation va conduire à l'incommunication, à l'absence de communication. Les personnes ne vont plus s'entendre. Ce sera la confusion des langues. Et un monde qui refuse Dieu est un monde qui ne peut pas communiquer. Parce que fondamentalement, l'homme est un être de relation avec autrui, relation avec celui qui l'a créé. Et nous voyons à l'autre bout de l'Écriture un contre-exemple de Babel, c'est la première communauté chrétienne. La première communauté chrétienne avec ses premières paroles que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, au chapitre 2, un peu plus tôt, où, ayant reçu l'effusion de l'Esprit Saint, le discours de Pierre et cette réflexion qui est faite par ceux qui sont là rassemblés à l'occasion de la fête de la Pentecôte, à Jérusalem, comment se fait-il que chacun puisse les entendre dans sa propre langue ? Un monde de communication, la première communauté chrétienne, où la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme, Actes chapitre 4. Vous voyez, fondamentalement, le royaume que Christ nous propose dans notre cheminement vers lui, eh bien, c'est d'entrer dans une communication qui soit un acte de communion. Le Christ a établi une communion entre Dieu et les hommes, le médiateur de l'alliance nouvelle, et il rend possible, dans une communauté de croyants, une vraie communication. Et là, c'est là tout le défi, vers une communication qui n'est pas vraiment une communion. Donc, par essence, l'Église, qui porte à notre monde le témoignage de la foi, et qui est l'héritière de cette histoire du salut, un monde de non-communication vers un monde de communication parfaite, tel que le Christ nous l'a enseigné, et on voit l'attitude du Christ, on déterra après coup tout à l'heure, la manière dont Jésus s'approche des personnes, établit des relations avec ceux qui étaient enfermés en eux-mêmes, dans leur péché, dans leur ténèbres. On voit bien que la posture chrétienne, c'est de nous faire rentrer dans une nouvelle découverte de ce qu'est la vraie communion et la vraie communication. Cette communication, dès le début de l'Église, qui était pourtant parfaite au sein de la communauté, elle va rencontrer des obstacles. Les premiers communicants qui étaient les apôtres, qui étaient témoins du Christ, ont rencontré les premiers, le martyr, l'opposition. Donc il n'est pas étonnant que l'Église, aujourd'hui, dans l'acte de communication qui la définit, rencontre des oppositions et des incompréhensions. Alors, il me semble que, quand on parle de communication qui est finalement intrinsèque au message de l'Église, à l'histoire du salut, il faut la situer, cette communication, dans un contexte aujourd'hui qui est très particulier et tout à fait différent de ce qu'il était il y a quelques siècles. Je détaille quelques-uns de ces éléments qui me semblent assez importants et qu'on va retrouver, je pense, dans ce nombre d'exposés que vous aurez l'occasion d'entendre dans les heures qui viennent, demain ou après-demain. D'abord, nous sommes dans un contexte de communication qui est celui d'une société, vous l'appellerez une société du spectacle, une culture du spectacle, où, naturellement, beaucoup de choses se jouent dans les mass médias qui façonnent des représentations culturelles, une manière de se penser, de penser le monde à travers ce qu'on en dit. On est extrêmement otage de cette communication multimédia. On pense que c'est 3h40, je crois, 3h40 de temps qui est consacré chaque jour par des personnes qui ont la télévision. Et ne parlons pas d'Internet, où il y a des accros d'Internet. Et cette boulimie de communication peut parfois devenir une addiction. Donc nous sommes dans un monde qui est très marqué par les médias, qui donnent une culture d'ailleurs internationale, les mêmes façons de penser, les mêmes thèmes sont repris d'un bout à l'autre de la planète par cette massification, cette densité des médias qui sont présents sur tous les continents. Et avec des instruments extrêmement diversifiés, on va y revenir. Société du spectacle qui, en même temps qu'elle donne une communication absolue, contribue beaucoup à la relativisation de ce qui est un principe ou sont des principes d'autorité, par exemple. C'est-à-dire que dans un échange d'une parole qui se veut libre, accessible à tous, etc., il n'y a plus la figure, en tout cas la figure d'autorité, comme érodée par le fait que tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Bon, il suffit, par exemple, sur Internet, de surfer sur la toile pour avoir des paroles, des images, qui porte atteinte à une figure d'autorité où, comme par exemple dans l'Évangile, on dit Jésus parlait avec autorité, il était dans la position du maître, il enseignait. Il y avait un émetteur et des récepteurs. Là, tout le monde est émetteur, tout le monde est récepteur. Donc ça change considérablement la manière de penser la communication. Autre point que je signale dans cette transformation, ce passage à un nouveau périple, dans un passage à un nouveau paradigme, c'est le contexte qui fait qu'il y a, sur le plan plus spécifiquement de l'Église, un fond d'inculture chrétienne, religieuse en général, d'incompétence d'un certain nombre de personnes qui sont chargées de distribuer les flux de communication, un certain nombre de journalistes, la connaissance sur l'Église, sur la foi, est relativement médiocre, victime d'un certain nombre de préjugés, et de ce fait, c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on a pu entendre, voir à l'occasion de toute cette aventure médiatique, cette curée médiatique qu'il y a eu il y a quelques semaines. On mettait bout à bout des phrases, on sortait de son contexte, on mettait un effet de loupe sur telle expression, etc. Parce que ça procédait, certes, peut-être d'une malveillance à propos du Saint-Père, mais aussi d'un manque profond de connaissances. Et donc, on utilise des pratiques dialectiques, des oppositions formelles. On joue sur des contraires, sans connaître le fond de la pensée ou sans chercher à la connaître. Donc c'est cette inculture religieuse jointe à un fonctionnement qui joue beaucoup sur l'émotionnel qui fait qu'on dénature, le discours et ce qui est transmis par le média. Cette société du spectacle, société de l'image, est tellement prégnante dans les consciences contemporaines, et on le voit par le nombre d'heures qui sont passées par les spectateurs devant leur petit écran qui devient un tabernacle, non pas catholique mais catholique, par le nombre d'heures passées devant Internet, il fait qu'il y a une culture dominante, une pensée dominante, un prêt-à-penser. Qui imprègne les consciences, qui conduit peut-être, dans certaines situations, à une forme de terrorisme intellectuel, une dictature par mimétisme. Ces caractéristiques sont à l'inverse de la proposition même de la foi qui invite à l'intériorité, à la prise de distance, à l'écoute bienveillante, à ne pas être l'otage du bruit, et en tout cas de la représentation que l'autre peut donner, donner de soi-même ou donner aux autres du monde. Et donc là, il y a, fondamentalement comme un antagoniste, il y a certains types de communication que fait l'Église, que l'Église essaie de transmettre par les médias, qui a beaucoup de difficultés à être exprimée par des médias qui, dans leur mode propre de fonctionnement, ne sont plus en cohérence avec le message qu'on veut communiquer. Je pense par exemple, sur un autre registre, au domaine de la musique. Bien évident que certains types de musique, et c'était le cardinal Ratzinger qui l'avait souligné quand il était préfet de la doctrine pour la foi, il avait souligné que certains types de musique ne peuvent pas porter certains types de messages. Quand une musique qui fondamentalement dans son rythme, dans son expression qui porte soit à l'érotisme, soit à la vulgarité, même si on colle les paroles chrétiennes, il y a une espèce d'incompatibilité entre le fond et la forme. Quelqu'un dans cette salle m'avait souvent dit, et cette leçon, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais il y a une certaine cohérence à avoir entre le type de message et le type de communication. On revient à la manière dont Jésus, par exemple, communique avec ses contemporains. Il le fait en utilisant un certain nombre d'expressions, de mots, qui sont à la fois extraordinairement accessibles à ses contemporains, mais qui n'attendent jamais à la liberté, qui ne perdent pas de séduction captatrice, qui ne ramènent pas la personne elle-même. La place, par exemple, des questions, du silence dans l'évangile, tout ça, tout à fait pertinent. J'ai souligné tout à l'heure le contexte et aussi celui de médias qui jouent beaucoup dans cette société du spectacle, sur le règne de l'émotionnel, de l'éphémère. En même temps, une surexploitation des images fortes et des gros titres, une surmédiatisation des petites phrases que j'évoquais, évoquées sorties de leur contexte, et qui sont tous ces modes rhétoriques d'expression qui sont en contradiction avec cette dimension de l'intériorité, de la nuance, de la discrétion, de l'intelligence, qui font partie la foi du contenu et la forme même du message chrétien. Le règne de la personnalisation extrême, de la pipolisation, par exemple, qui n'est pas en rapport avec la dimension de l'Église comme portant un projet collectif et ne braquant pas simplement sur une personne en particulier, tous les effets des feux de la rampe. Bref, pour tout ce contexte dans lequel on se trouve impliqué et dans lequel se trouve impliquée la communication de l'Église, nous invite, et j'en viens à quelques conclusions qui semblent relever de l'effort de l'Église, mais aussi je rappellerai quelques phrases du pape Benoît XVI qui souligne cette exigence, nous invite à, d'une part, à, je vais dire, ne pas diaboliser les médias. Il y a parfois une tendance à la victimisation, c'est-à-dire, voilà, les médias aujourd'hui, on veut à l'Église, et c'est vrai que l'évêque à l'Assemblée de Lourdes disait, les médias, c'est comme le verglas, il faut faire avec. Ne pas diaboliser les médias, c'est un moyen qui n'est pas neutre, c'est un moyen qui exige un certain nombre de précautions, de formations pour le bien utiliser. Mais ne pas diaboliser finalement non plus aussi tous les journalistes comme s'il y avait une vindicte populaire à travers les médias. Je sais bien que d'une manière particulière, un certain nombre de médias s'en sont pris à Benoît XVI. Cette affaire, c'est clair, parce que c'est une figure d'autorité. L'autorité est disqualifiée, parce que au moment où l'humanité est amenée à faire des choix décisifs sur ce qu'est la personne humaine, sur la définition du bien et du mal, c'est ce qui fait le bonheur, le sens de la vie, ce qui conduit au malheur, elle est aujourd'hui peut-être la seule autorité morale rappelant à l'Église, rappelant au monde, l'Église, mais au monde aussi, et avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de clarté, la grammaire de la vie et de l'amour. Et donc, naturellement, on peut s'en prendre aussi directement à cette parole qui gêne dans un monde de relativisme et de pluralisme. Mais il n'y a pas forcément toujours une volonté farouche de s'en prendre au pape. On applique des procédures, on voit continuellement cela dans des procès dont on parle à la télévision, à la radio, dans ce qui fait l'actualité chaque jour, des espèces d'averses médiatiques successives, stigmatise quelqu'un, ou on loue quelqu'un, puis on passe à un autre sujet. Donc ça fait partie de ce training dans lequel nous sommes impliqués. En même temps, le pape le souligne, et je le citerai petit passage dans les différentes lettres qu'il a envoyées, les messages qu'il a envoyés récemment à propos des nouveaux médias ou à propos de la place du prêtre dans la pastorale du monde numérique. Le pape souligne la nécessité d'une présence chrétienne dans ce monde des médias. Et c'est une présence qui nécessite une formation. Je note, le pape dit ceci. Par contre, il est demandé aux prêtres, donc chrétien, la capacité d'être présent dans le monde numérique, dans la fidélité constante au message évangélique pour exercer le rôle d'animateur communauté s'exprimant désormais, toujours plus souvent au milieu de voix provenant du monde numérique, d'annoncer l'évangile en se servant à côté des moyens traditionnels, de l'apport des nouvelles générations de moyens audiovisuels, photos, vidéos, animations, blogs, sites, web, qui représentent des occasions inédites de dialogue et même des outils indispensables pour l'évangélisation et la catéchèse. C'était plus sage à la 44e journée mondiale des communications sociales. Donc, la nécessité d'une vraie présence de l'Église sur ces nouveaux vecteurs, ce monde de la communication. En même temps, je soulignais tout à l'heure une formation. Une formation pour déjouer les pièges, travail de fond, d'éducation, de relecture dans la manière d'utiliser les médias, de s'en servir. Capacité de s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de consommation audiovisuelle aujourd'hui. De toujours porter cette exigence, c'est aussi un des aspects que reprend souvent le pape Benoît XVI, une exigence de vérité, que les médias ne soient pas des instruments pour diffuser des messages qui sont contraires à la dignité de la personne humaine. C'était Paul VI qui disait que l'exigence morale fondamentale de toute communication est le respect de la vérité et le service de cette vérité. Exigence de vérité, mais aussi discernement pour nous affranchir de tout ce qui est une forme de manipulation, de récupération par les médias. Je cite Benoît XVI, si je retrouve la note que j'ai prise, je ne la retrouve pas. Voilà. Mettre les médias au service de la parole, ne pas succomber au mirage, dit Benoît XVI dans ce message pour les communications sociales, ne pas succomber au mirage de la communication moderne en mettant la parole au service des médias. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser duper par ceux qui cherchent tout bonnement des consommateurs sur un marché de possibilités indifférenciées où le choix en lui-même devient le bien. La nouveauté se fait passer pour beauté, l'expérience subjective remplace la vérité. Je soulignerai aussi un point, c'est que l'utilisation des médias va aussi nous inviter à ne pas exister uniquement par eux. On peut avoir cette tendance à la vedettarisation, à être quelqu'un parce qu'on est filmé. On voit d'ailleurs souvent ce réflexe spontané quand il y a un caméraman qui on voit les enfants qui se précipitent pour me mettre une main ou laisser passer leur visage en espérant être ensuite vu à la télévision le soir même dans le journal télévisé. Cette tentation d'exister par le fait qu'on parle de nous. Et notre existence, nous la tirons de celui qui nous la donne. Et à un certain moment, il faut à la fois dans ce souci de transmettre quelque chose, éviter de rentrer dans cette tentation d'être toujours otage, victime ou prisonnier, ces choses en même temps, de la télévision qui va finalement non plus servir la transmission d'un message, mais se servir de nous. Le pape soulignera aussi dans cette manière dont l'Église aujourd'hui doit être présente dans le monde des médias, le professionnalisme, et travailler de plus en plus en synergie dans un monde globalisé. Donc tous les médias sont, et je crois que vous le verrez de manière très, très importante, de plus en plus en interactivité les uns vis-à-vis des autres. Et là aussi, il y a un effort d'autant plus important de communication à l'intérieur même de la communication, on ne peut plus fonctionner en parallèle, mais profondément en lien les uns avec les autres. D'où d'ailleurs l'intérêt de rencontres comme celle-ci, où on va avoir se croiser des modes de présence, des modes de communication qui sont autant aussi nécessaires les uns vis-à-vis des autres. Et c'est d'ailleurs un des grands enjeux aujourd'hui, des grandes difficultés de la communication dans l'Église. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites ça et là, de projets, de médias, mais qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer pour travailler dans le même sens. Voilà quelques aspects assez rapides de ce message sur la communication auquel nous convie l'Église, en prenant conscience de ce qu'elle représente de manière importante, parce qu'il en va de l'enjeu de la mission. L'Église est un lieu de communication, de transmission. Le message évangélique doit être donné au monde entier. Le Christ nous donne donc, nous amène à nous attacher à cultiver la présence dans le monde des médias et en même temps d'être extrêmement soucieux que cette présence ne déforme pas le message, que l'on puisse travailler dans un esprit qui soit attentif à la vérité, la recherche de la vérité, la transmission de la vérité, que nous soyons aussi attentifs à être libres par rapport à l'image de soi que l'on de transmettre, en rappelant que le Christ lui-même, il est passé par la croix, c'est-à-dire par une image, s'est révélé à travers une image complètement défigurée et odieuse de lui-même. Et pourtant, cette défiguration du Christ laisse transparaître une beauté intérieure, une beauté de l'âme. Eh bien, que cet appel que nous adresse l'Église de manière toute particulière, de ces paroles du pape Benoît XVI, le message qu'il a transmis récemment, à l'occasion de l'année sacerdotale, et aussi à travers les événements récents, nous invite, à travers ce week-end, à pouvoir mieux explorer, et mieux redynamiser notre présence, notre parole à travers les médias, en étant vraiment attentif et soucieux de vivre cette formation, ce discernement, pour que cette présence soit une présence rayonnante, sans nous laisser contaminer par ce qu'on dit de l'Église aujourd'hui, et en même temps, sachant qu'il y a parfois, à travers les médias, une forme de martyr, telle que l'on connaît les premières communautés chrétiennes, quand elles ont voulu communiquer leur espérance et leur foi au monde contemporain. Nous avons à suivre les mêmes traces que le Maître, que l'Église primitive. Voilà, ce sont quelques réflexions, j'espère qu'on aura l'occasion de les approfondir tout au cours de ce week-end. Merci.
Il y a quelques années, on m'avait demandé un vendredi soir de rencontrer des sixièmes, qui étaient un groupe de 25 sixièmes, qui étaient avec trois mamans catéchistes. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé trois mamans en pleurs, qui me disent « mais on ne sait plus quoi faire, c'est des fauves ». Un vendredi soir, à 4h30, il y avait 25 fauves avec trois mamans en pleurs. Et je regarde le livre de catéchèse qui était ouvert en face de chacun, et il était ouvert à une leçon sur le temple de Jérusalem, où le grand prêtre était en train de mettre ses tuniques de lin, ses caleçons de lin, pour entrer dans le Saint des Saints. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils en ont à cirer ? Le temple de Jérusalem, le grand prêtre pour un sixième un vendredi soir à 16h30. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est une non-communication absolue. Et comment faire, comment Jésus a fait? Si vous regardez le matin de Pâques, ben, c'est pas brillant. Car des anges arrivent, les femmes courent au tombeau, il y a deux anges dans Saint-Luc qui leur disent, il est ressuscité, il est vivant. Bon, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles courent le dire aux disciples. Pierre, il va voir, et puis il rentre chez lui en disant, bah oui, le tombeau est vide. Il y a bien des femmes qui nous ont raconté qu'il est vivant, mais on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Et ils rentrent chez eux. Et dans Saint-Marc, vous avez un jeune homme qui apparaît aux femmes, qui leur dit, il est vivant.
Et les femmes, l'Évangile nous dit, elles ne dirent rien à personne et elles s'enfuient. Point final de l'Évangile dans sa première version. Et c'est quand même étonnant que Jésus lui-même va devoir reprendre les choses en main immédiatement. Et comment est-ce qu'il les reprend? Et là, je voudrais, à travers le récit des disciples d'Emmaüs, vous montrer qu'on a vraiment la pédagogie de Jésus pour rejoindre l'homme aujourd'hui. Et dans un collège du Vaucluse, à partir de ce récit, on a bâti toute une catéchèse, une première annonce de la 6e à la 3e, et ça a bouleversé la vie de ce collège. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, on nous dit dans Saint-Luc qu'il y avait deux disciples qui faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, et ils s'en vont, ils sont tout tristes. Et ils conversaient, nous dit Saint-Luc, de tout ce qui s'était passé. Première chose que fait Jésus, il les rejoint. Il les rejoint et il fait route avec eux. Il ne commence pas par leur parler, par les baratiner, non. Il les rejoint et il fait route avec eux. Quand on veut communiquer, est-ce qu'on prend le temps de rejoindre celui avec qui on veut parler? Et est-ce qu'on commence vraiment par faire route avec lui? Et je vous promets que des jeunes, quand on les rejoint et qu'on fait route avec eux simplement, avec Jésus, il les a rejoints, il n'a pas dit un mot au début. Et puis, à un moment donné, il va dire « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Il va les faire parler de tout ce qui habite leur cœur. Il va leur faire faire une sorte d'anamnèse de tout ce qui les habite. Et là, ça, tout d'un coup, ça déborde de leur cœur sans que Jésus ne dise encore aucune parole autre de quoi discutiez-vous en chemin. Il fait parler ces deux hommes de ce qui habite leur vie. Il rejoint ces hommes, il fait route avec eux et il leur dit « Qu'est-ce qui habite ton cœur ?» Et il laisse monter et il écoute. Il prend le temps d'écouter en marchant. Et le fait de marcher, c'est aussi une dynamique, on n'est pas statique. Et au bout d'un moment, là, ils ont vraiment pu déverser tout ce qu'ils avaient, toute la tristesse de leur cœur. Vous rendez compte, pendant 3 ans, vous avez suivi un type, vous avez donné votre vie pour lui, et puis il est mort comme une loque humaine. On était prêt à donner sa vie pour lui, à se battre pour lui, et lui, il s'est laissé aller. Au point que même Pierre ne le reconnaissait plus, c'est dit, mais ce type-là, je ne le connais pas. Et oui, et il avait raison, Père, il ne le connaissait pas. Et vraiment, il laisse remonter de leur cœur toute la tristesse qui les habite. Et puis, à un moment donné, eh bien, au moment où ils ont été jusqu'à dire, ouais, il y a bien des femmes qui nous ont dit qu'il est vivant, mais... Et à ce moment-là, eh bien, il va ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Il va prendre sa Bible, Jésus, et puis il va leur dire tout ce qui le concernait dans la parole de Dieu. Lui, la parole, il laisse cette parole venir descendre dans leur cœur à chacun. Et là, on saura après, à la fin du récit, on saura que notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin. Et là, la puissance de la parole de Dieu va agir en eux. Et entre parenthèses, j'arrête un instant pour revenir aux fauves de 6e. À un moment donné, j'ai dit, on va aller prier. Les mamans m'ont dit, mais vous êtes fous, on n'y arrivera pas. Et on s'est mis en silence dans la chapelle. J'ai ouvert ma Bible et j'ai laissé la parole de Dieu agir. Ben, ça a été bouleversant. Et Jésus va faire chemin avec eux. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent au village où ils vont. Et spontanément, reste avec nous. Reste avec nous, car il se fait tard. La nuit tombe, il se fait tard. Reste avec nous. Vous vous rendez compte le chemin parcouru? Jésus les rejoint. De quoi parliez-vous?
Oh, ben, tu viens de ce type à Jérusalem, il ne va pas être au courant.
Et il a fait route avec eux, il leur a fait remonter de leur cœur toute leur tristesse, et puis après, il a commencé à ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Et il leur a partagé dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Lui. Et le résultat, c'est « Reste avec nous ». Et Jésus va entrer, il va entrer dans la maison, il va s'asseoir. Et là, c'est l'heure de la convivialité la plus profonde. Et là, ils vont le reconnaître à la fraction du pain. C'est l'Eucharistie qui va leur ouvrir les yeux à la présence divine. Au-delà du cœur brûlant, tout d'un coup, il est là. Et Jésus, c'est mystérieux, il disparaît immédiatement.
On peut se dire, ben, c'était bien la peine. Hein?
Et en fait, immédiatement, eh bien, ils n'ont plus besoin de sa présence, car ils ont sa présence d'une autre manière. Et de fait, à ce moment-là, le récit nous dit, eh bien, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et à cette heure même, ils retournent à Jérusalem, en pleine nuit. Ils repartent à Jérusalem. Eh bien, vous voyez, si dans toute communication, on prenait le temps de rejoindre les gens, de faire route avec eux, de les faire parler de tout ce qui habite leur cœur, faire remonter toute la tristesse du cœur de l'homme aujourd'hui. Et puis après, eh bien, la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Christ qui va pouvoir brûler les cœurs. Et à ce moment-là, notre joie sera d'entendre des gens aujourd'hui encore nous dire « Reste avec nous ». Et à ce moment-là, l'Eucharistie sera vraiment le moment le plus profond de la rencontre avec lui et de la communication où on est vraiment, on ne fait plus qu'un en lui. Deuxième texte que je vous propose, complètement différent. Là, c'est un texte où, en travaillant l'Évangile, là c'était saint Matthieu, je me suis aperçu qu'on arrivait à isoler des petits livrets de catéchèse. Et là, je voudrais partager avec vous un de ces petits livrets où on a l'impression que vous avez une catéchèse de base, où on pourrait dire un check-up de tous les éléments importants de la vie spirituelle ou de la communication au plan chrétien. C'est l'histoire des rois mages. Je ne sais pas si vous avez déjà relu cette histoire des rois mages. Alors, c'est tout simple. Les rois mages, d'abord, première étape, tout d'un coup, ils voient un signe dans le ciel. Eh bien, Dieu n'arrête pas de nous donner des signes dans notre vie. Dans notre vie, à chacun de nous, quotidienne, des signes qui ne sont lisibles que par nous. Des tas de petits signes que Jésus nous fait. Mais il y en a beaucoup, on les laisse passer. Un jour, avec des lycéens, on avait été voir un ermite à Sénan, et il y a un lycéen qui lui dit « Mais pourquoi vous avez une voiture ?» Et lui, au lieu de faire la réponse que les lycéens attendaient, c'est pour aller faire mes courses. Le moine, il dit, c'est pour aller me confesser. Alors les lycéens, ils ouvrent des yeux comme ça, mais vous n'avez pas besoin. Et lui, il leur a dit, mais si, parce que je suis souvent indocile au signe que l'Esprit Saint me fait dans ma vie quotidienne. Et il sentait toutes ces motions, tous ces signes de l'Esprit Saint. Ben, il n'était pas assez docile, il avait besoin de se confesser. Eh bien, chacun de nous, la première chose, et quand on veut rejoindre quelqu'un, c'est l'aider à découvrir tous les signes que Dieu nous fait dans notre vie. Mais attention, on peut voir des signes et puis rester assis. Les rois mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés et ils se sont mis en route. Ça, c'est vital. Et toute l'histoire de la Bible, l'histoire d'Abraham, va là où moi je te conduirai. Et il se lève, il part. Mais les rois mages dessinent et ils se mettent en route. Le signe, là, c'est une étoile. Bon, et ils marchent, bon, ils arrivent à Jérusalem, crac, l'étoile disparaît. Ah. Alors, d'où va leur venir la lumière? Et ça, c'est le deuxième niveau de la vie spirituelle, il y a des signes. Puis le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? À Jérusalem, vous allez, ils vont voir le roi Hérode, probablement c'était des mages d'une certaine importance, et ils disent au roi Hérode, ah, on a vu un signe, il y a un mystérieux roi qui a dû naître chez toi, où est-ce qu'il est né? Ah, le roi Hérode, bon, on sait aussi qu'il a peur de son royaume, mais immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous les spécialistes de la Bible. Et immédiatement, ils lui disent, c'est à Bethléem en Judée. Et là, la lumière dans nos vies, elle nous vient de la parole de Dieu. Les signes, la mise en route, et la parole de Dieu qui devient lumière sur notre chemin. Ça, c'est là, un élément vital. Vous devriez connaître tous le Nouveau Testament, au moins comme les rues de votre quartier, ou comme les chemins de votre village. Et l'étape de cette lumière de la parole de Dieu, c'est formidable. Car le Christ, je suis la lumière du monde. Et la parole de Dieu sera lumière. Alors, ça y est, ils peuvent se mettre en route, ils sortent de Jérusalem et ils prennent la direction de Bethléem. Ah, mais d'où va leur venir la lumière? Alors, troisième étape, là, l'étoile, il y a une étoile qui apparaît. Et cette étoile, elle va les conduire jusqu'au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez parfois des étoiles qui vous conduisent jusqu'au-dessus d'un endroit. Dans les dessins animés, on arrive à tout voir aujourd'hui. Mais quelle est cette mystérieuse étoile? Eh bien, la troisième étape, c'est, je vais le dire en latin parce que ça vous parlera davantage, c'est Lumen Gentium. C'est le Christ lui-même qui devient lumière des nations. Et la troisième étape dans la vie spirituelle et dans la communication, c'est que le Christ lui-même devient notre lumière sur le chemin de notre vie. Les signes, la parole de Dieu et le Christ, lumière de nos vies. Et il nous conduit jusque au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant. Alors là, on s'est dit, attention, l'enfant, il va prendre une signification extrêmement importante. Et là, on va déboucher sur la quatrième étape de ce check-up de la vie spirituelle ou de la communication, c'est qu'ils entrent dans la maison, et qui trouvent-ils dans la maison? Je vous écoute. Ah voilà, j'ai tendu mon filet comme un oiseleur et vroom, on est parti tête baissée dedans. En fait, ils virent l'enfant et sa mère. Joseph, il n'est pas là. Et ils entrent dans la maison. Or, dans le Nouveau Testament, la maison, c'est le symbole de l'Église qui commence à naître. Eh bien, les signes, la parole de Dieu, le Christ lui-même et l'Église. Et en entrant dans l'Église, il trouve l'enfant et sa mère. Alors là, c'est essentiel de voir que l'enfant, c'est ce que nous devons tous devenir. Si nous ne devenons pas des petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume. Pourquoi? Et où est-ce que vous serez dans 70 ans, tous?
Comme ça, à peu près tout le monde est dans l'eau. J'espère que vous serez tous vivants dans la Trinité Sainte. Mais où est-ce qu'on sera dans la Trinité Sainte? On sera dans le Fils bien-aimé. Ça veut dire que si on veut y parvenir, il faut devenir ce qu'il est en plénitude. Il faut entrer dans le Fils bien-aimé. Il faut redevenir un petit enfant. Car le Fils bien-aimé, il n'a rien. Il est le pauvre par excellence et il reçoit tout de son Père à chaque instant. Et si vous voulez entrer dans votre éternité, dans la Trinité, eh bien, il faut entrer en redevenant un petit enfant. C'est-à-dire dans une confiance et un abandon total et dans une certitude que par soi-même, on ne peut rien. Mais qu'on va tout recevoir de notre Père du ciel d'instant en instant. Et un jour, j'avais accompagné un industriel dans la mort et 2 heures ou 3 avant de mourir, il me dit: maintenant, je commence à comprendre ce qu'est la pauvreté. Car je ne peux plus me raccrocher à quoi que ce soit, je ne peux plus qu'attendre de me recevoir de mon Père du ciel. Eh bien, à ce moment-là, il avait compris qu'il fallait, dans l'Église, redevenir comme cet enfant, ou trouver notre place en lui. Et puis, il y a l'enfant et sa mère. Et sa mère, pourquoi? Parce que Marie, elle a une place essentielle dans le cheminement de chacun de nous pour devenir ses petits-enfants dans son Fils bien-aimé. Et au pied de la croix, qui était présent au pied de la croix?
Il y en a qui commencent à dire attention. Eh bien, tous ceux qui ont dit Jean, vous irez relire votre évangile, car on nous dit qu'au pied de la croix, il y avait Marie et le disciple bien-aimé. Car chacun de nous, on est appelé à être le disciple bien-aimé, à nous pencher sur la poitrine de Jésus pour entendre battre le cœur de Dieu le jeudi saint. Et le vendredi saint, pour être là, pour entendre Jésus me dire « Voici ta mère ». Et l'entendre dire à Marie « Voici ton enfant bien-aimé ». Et l'évangéliste nous dit: à partir de cette heure-là, il prit Marie chez lui. Eh bien, dans la quatrième étape où on perçoit qu'on est appelé à devenir un enfant, alors à ce moment-là, on prend Marie chez soi. Et si on n'a pas Marie chez nous, eh bien, on ne pourra pas entrer dans cette logique de l'Église et de l'enfance spirituelle. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se prosternent et ils vont adorer Jésus, l'enfant Jésus. Et ils vont lui offrir, vous connaissez bien, les 3 présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or pour le reconnaître comme roi, l'encens pour dire c'est notre Dieu, et la myrrhe pour annoncer mystérieusement le salut par la croix. Eh bien, dans toute notre vie spirituelle, à un moment, il faut adorer le Seigneur. Il faut l'adorer en disant: Jésus, tu es mon roi, mon Seigneur, et tu es mon sauveur. Et ce soir, si on pouvait tous, au fond de notre cœur, dans la louange qui va suivre, dire vraiment: Seigneur Jésus, tu es aujourd'hui, maintenant, à cette minute, tu es mon roi, mon Seigneur, et mon sauveur. Et mon sauveur, c'est important parce qu'on est tous enfermés dans la mort. Et c'est même étonnant de voir qu'on a galvaudé le mot de mort. Car la mort véritable, c'est le péché. Et si vous écoutez saint Paul, il vous dira: nous étions morts à cause de nos fautes et des péchés que nous avons commis. Mais dans sa miséricorde, il nous a sauvés en son Fils bien-aimé. Et là, on pourra non seulement découvrir ce chemin de l'enfance, mais découvrir celui qui est mon roi, mon Seigneur, mon sauveur aujourd'hui. Et après, eh bien, la dernière étape, c'est de repartir par un autre chemin. Et on ne sera plus les mêmes. On ne sera plus les mêmes et en même temps, on évitera Hérode
et toutes ses combines, etc. Et le roi Hérode, lui, il va faire mourir tous les saints innocents. Et Matthieu, il va citer une parabole, une phrase du prophète Isaïe, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Vous avez déjà été voir dans la Bible d'où elle vient cette citation ? Et où dans Jérémie ? Ouais, mais c'est quoi dans 31 ? Parce que ça, on le trouve en marge, c'est facile ça, vous en tirez bien, mais... Jérémie 31, qu'est-ce que c'est ? C'est le livre de la consolation d'Israël. Consolez mon peuple, car ça y est, son péché est pardonné, et toute la vie revient. Et là, on sent que c'est la mort qui va entraîner la vie. C'est les saints innocents de tout le monde entier qui vont donner la vie à l'Église, etc. Alors, vous voyez comment un petit livret de catéchèse, les signes, se mettent en route, la parole de Dieu, le Christ, lumière des nations, ma lumière, et l'entrée dans la maison église où je trouve l'enfant et sa mère. Je me laisse modeler par cet enfant et j'accueille Marie chez moi et j'adore. Et après ça, je prends, continue mon chemin par un autre. Je repars chez moi par un autre chemin, je ne suis plus le même. Je dois m'arrêter ou pas, Alex ? Oui, mais bon. Alors, 5 minutes pour le troisième texte, il faudrait beaucoup plus de temps, mais ça ne fait rien. C'est la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une femme que j'aime beaucoup. D'abord, Jésus, l'évangéliste nous dit que Jésus, il devait passer par là. C'est pas vrai. Géographiquement, il y avait 2 routes et normalement les Juifs ne passaient pas par là parce qu'ils ne voulaient pas avoir affaire aux Samaritains. Et pourtant l'évangéliste nous dit il devait. Pourquoi ? Parce qu'il avait rendez-vous avec cette femme. Jésus a rendez-vous avec cette femme. Comme vous avez vu la première lecture d'hier, où vous avez l'ange du Seigneur qui dit à Philippe, pars sur cette route, elle est déserte. Nous tous, on aurait dit, alors à quoi ça sert d'y aller si elle est déserte ? Et on se laisse conduire. Jésus avait rendez-vous avec cette femme, Philippe avait rendez-vous avec l'eunuque. Et c'est Dieu qui organise ces rendez-vous. Et puis vous avez Jésus qui est fatigué au bord du puits. Vous savez, Jésus, il y a des moments, il veut dire quand même, qu'est-ce qu'ils ont la nuque raide ? Qu'est-ce qu'ils sont... C'est dans Saint-Marc qu'on dit, ils sont complètement bouchés. Ah ouais. Et à ce moment-là, au moment où c'est plein midi, le soleil de justice qui éclaire le monde, Jésus est là, au bord de ce puits qui était la source vive. Entre parenthèses, la pierre qui ferme le tombeau de Jésus, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle est fort lourde. Et vous avez déjà été voir dans la Bible si on trouve des pierres fort lourdes ? Une seule fois, quand même étonnant ça, une seule fois, c'est la pierre qui ferme le puits de Jacob. Or, on est au bord du puits de Jacob. Le tombeau de Jésus devient le nouveau puits de Jacob. Mais je reviens à la Samaritaine. Quand il va aborder cette femme, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, donne-moi à boire. Il va lui demander quelque chose. Si on évangélise en disant, ben Seigneur, heureusement que je suis là, puis je vais les évangéliser. Non, rejoindre les gens et avoir besoin d'eux. Vous savez que Charles de Foucault, quel est le moment de sa deuxième conversion qui a été vraiment pour lui le déclic de la sainteté ? C'est pas du tout quand il s'est converti avec l'abbé Huvin. Ça, c'est la première conversion. Sa deuxième conversion, et ça, c'est le frère Antoine Châtelard qui a vécu 40 ans là au désert, qui dit, c'est le moment où Charles de Foucault, malade, a dû accepter de se laisser soigner par les nomades. Est-ce que vous pouvez me soigner ? Eh bien, Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Il est fatigué, il a soif. Et je vous promets que quand vous êtes dans le désert ou sur la route, et que tout d'un coup vous arrivez à un puits, vous dites, Seigneur, formidable, un bon verre d'eau fraîche. Et la femme, elle commence à se moquer de lui. Elle est en déphasage complet par rapport à Jésus. Parce qu'elle est samaritaine, il est juif. Méfiance réciproque. Quand vous abordez quelqu'un en lui disant vous auriez 5 minutes pour que je vous parle de Jésus, habituellement, crac, c'est les griffes qui sortent. Je me suis aperçu qu'en Italie, c'est très différent. Les Italiens, au moins dans le Nord, vous dites, j'ai une bonne nouvelle, vous auriez 5 minutes, ben, ils donnent une demi-heure facilement. Mais à Avignon, vous verrez demain, c'est pas pour vous. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Bon. Et déphasage complet entre cette femme et Jésus. Et là, Jésus va, avec beaucoup de délicatesse, la reprendre. Si tu savais le don de Dieu, il est à un autre niveau. Et la femme, elle continue à son niveau. Attends, tu me parles de don de Dieu, non, mais le don de Dieu. Et si tu savais qui est celui qui te parle, il te renaît dans l'eau. Mais attends, Seigneur, ta corde, elle est où? Ton seau, il est où? Et le puits est profond en plus, d'où tu vas la tirer ton eau? Et là, elle se moque de Jésus. Et Jésus, il dit rien. Et Jésus, à ce moment-là, il va faire un acte important. Il la rejoint, il a eu besoin d'elle, il la laisse s'exprimer, même se moquer de lui. Et à un moment donné, il va l'humilier. Et ça, si vous pouviez percevoir comment l'humilité a ouvert le cœur de cette femme, comme il a d'ailleurs ouvert le cœur de Nicodème. Nicodème, Jésus lui dit, te faut naître de nouveau. Comment? Je ne vais quand même pas rentrer dans le sein de ma mère. Et à un moment donné, Jésus lui dit, comment toi, t'es diplômé de toutes les universités de Jérusalem et tu ne comprends pas, mais t'es nul alors. Et à ce moment-là, Nicodème arrête de demander comment. Et Jésus va lui révéler le mystère de la croix. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et avec la Samaritaine, va chercher ton mari. Il met le doigt sur la blessure du cœur de cette femme. Il y a un moment où il faut pousser les gens à un acte d'humilité. Car l'humilité, c'est juste, je crois que tu te restes, on peut toujours lui prêter des tas de choses à elle. C'est la seule vertu qui attire Dieu immanquablement. L'humilité. Et à ce moment-là, cette femme, elle revient sur le registre religieux. Vous voyez, vous adorez à Jérusalem, et là Jésus va la conduire tout doucement. Là on me fait signe qu'il va falloir m'arrêter. Et là, oui, c'est discret. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jésus la conduit. Quand il viendra, lui, le Messie, il nous révélera tout. Et Jésus lui dit, Ego eimi, je suis. Et après ça, si on avait eu le temps, on aurait pu voir comment cette femme, c'est la plus grande missionnaire de tous les temps. Jésus la conduit jusqu'au sommet de la révélation. Elle va trouver les gens de Samarie et leur dit, j'ai trouvé le sauveur. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et elle n'a pas employé un langage compliqué. Je vais vous parler de transsubstantiation, non? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et si vous reprenez le récit de Jean, car je m'arrête, la dernière phrase des Samaritains, maintenant nous croyons, il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où des gens déclarent, Jésus, tu es le sauveur du monde. Je m'arrête.